On voit tout de suite hein, que ça intéresse tout le monde. Il y a beaucoup plus de questions. C'est pas étonnant. Hein. Un sujet qui est plus facile du reste, puisque c'est à la fois psychologique et métaphysique, mais nous ne le traitons pas au point de vue psychologique. Hein. Nous le traitons au point de vue métaphysique. C'est-à-dire en regardant la finalité. Et alors, à ce point de vue-là, ça peut être très intéressant. Ce serait très intéressant de voir comment un psychologue qui est vraiment formé à la psychologie regarde la chose. Et la manière dont nous essayons, nous, en théologie, de regarder. Mais c'est toujours... Parce que c'est important... Pour notre époque, de fait, c'est des choses qui sont neuves. Aristote n'avait pas de psychologue en face de lui. Mais il avait d'autres personnes. Aristote, d'ailleurs, n'a pas traité ces questions-là. Parce que la métaphysique, Aristote, il a simplement touché. C'était déjà énorme. La métaphysique, dans tout le développement du comment, et c'est très important, n'oubliez jamais ce que Auguste Comte a dit. La question du tiesti, ce sont les enfants. La question du pot, ce sont les adultes. La métaphysique qui cherche le tiesti, c'est l'enfant. Pour lui, l'enfant est métaphysicien. Mais quand on a quitté l'enfance, on est devenu l'homme positif, alors on regarde le comment. C'est assez joli, je reste, quand on regarde ça par rapport à l'évangile. Hein, soit. Ce refus, je crois que ça joue beaucoup, ce refus d'être enfant, et ce désir de toujours être celui qui raisonne, le comment. Parce que quand il n'y a plus que le comment, c'est infini. Le tiesti est net, ce sont des principes. Mais le comment, il n'y a pas de principe. Alors le relatif appelle le relatif, le relatif appelle le relatif, et plus, c'est infini. Alors c'est très intéressant et très important de voir que depuis Auguste Comte, c'est le point de vue positiviste. Et c'est même en théologie. Hein. Auguste Comte, hein, il lutte contre le théologien, puisque le théologien, pour Auguste Comte, est un naïf. C'est un enfant. Le vrai théologien, c'est un enfant. Il cherche la finalité. Rechercher la finalité, c'est être un enfant. Il ne faut pas oublier ça, parce que je crois que ça joue beaucoup. Le théologien est très sensible à être en face des autres un homme accompli, un savant. Et il a beaucoup de peine d'être un enfant. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons une peine énorme d'être un enfant en face de Jésus. Or, on est un enfant quand on cherche au point de vue métaphysique quelle est la finalité. Vous voyez, la finalité de l'homme, la finalité de la femme, qui est dans le pos. C'est ça qu'on doit chercher. Alors, je lis vite les objections, parce qu'il faut quand même répondre. N'est-ce pas ? Il y en a des quantités. Mais au sujet de l'objet, de l'imaginaire, vous dites qu'elle trouve son objet d'une façon immanente. N'est-ce pas plutôt mélanger qui est formé à partir de la réalité ? Oui, c'est sûr qu'on a la réalité. L'immanence de l'imaginaire, c'est le développement de l'imaginaire. L'imaginaire commence toujours par la réalité. Mais la réalité, c'est pas l'imaginaire qui fait reconnaître la réalité. L'imaginaire vous empêche de voir la réalité. C'est ça qui est le mur. Et vous vivez dans l'imaginaire. Il y a la connaissance directe par les sens externes. Ce sont les sens externes qui font connaître la réalité. L'imaginaire, alors formellement, si je parle de l'imaginaire, c'est une faculté qui a contact avec la réalité par les sens externes, pas directement. Et ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un « tu restes dans ta boule », qu'est-ce que ça veut dire ? Tu restes dans ton imaginaire, mon vieux. On t'a raconté ça, et puis c'est devenu énorme, et tu vois tout à travers ça. Et c'est comme ça qu'on fond. Aujourd'hui, les enquêtes, quand les gens cherchent la vérité, ils ont leur bulle imaginaire énorme. C'est comme ça. L'imaginaire est devenu, dans le monde d'aujourd'hui, la réalité. Oui. C'est pour ça que cette petite remarque est très bien, est très intéressante. Parce que l'imaginaire ne me fait pas connaître la réalité. La réalité, elle est connue par les sens externes. L'imaginaire commence à partir de la connaissance des sens externes. Mais c'est très très curieux l'imaginaire. Il y a très peu de traités philosophiques sur l'imaginaire. Il y en a quelques-uns. Il y a Sartre. Il y a Aristote et Sartre. Entre deux, il y en a quelques-uns, mais très peu. Le traité de l'imaginaire d'Aristote est extrêmement intéressant. Il est très fort. Et il montre que c'est toujours ce qui est mu. Dans l'imaginaire, je suis celui qui se meut, imaginaire, dans l'immanence. Alors c'est sûr que l'imaginaire se développe toujours à partir du sensible, c'est sûr. Mais regardez le cinéma. Le cinéma augmente énormément l'imaginaire. À partir du cinéma, le monde a décuplé son imaginaire. L'art du cinéma est toujours un art second. Il puise son art chez les autres et il fait un art synthétique. Le cinéma est merveilleux pour faire un art synthétique. On vous montre la vie de quelqu'un en 2 heures. C'est merveilleux. Dieu vit la vie de quelqu'un en un instant. Et nous vivons la vie de quelqu'un en 2 heures. C'est un progrès énorme, ça. Formidable, mais c'est un danger très grand. Parce que nous croyons qu'en 2 heures, nous avons compris quelqu'un. Vous avez vu ces étapes ? Ah oui. Et lui, il a mis 60 ans pour faire ça. Et vous mettez une demi-heure. Et ça, c'est l'imaginaire. Oui. L'imaginaire est constamment devant l'image. Et l'image, c'est pas le réel. C'est quelque chose qu'on a fait. Oui, les opinions. Pour les opinions des hommes, c'est ça. Alors, le monde a changé à partir du cinéma. La culture humaine a changé à partir du cinéma. Et elle a perdu sa fine pointe d'essence. Les gens vont au cinéma plutôt que de se promener dans la nature. C'est très curieux, hein? Bon, alors, continuons. Le façon immanente. N'est-ce pas plutôt un mélange qui est formé à partir de la réalité? Oui, mais moi je regarde le point de départ de l'imaginaire. C'est pas le réel. C'est ce qui est connu. Toujours. Qui est formé à partir de la réalité, pas à partir de la réalité. C'est à travers nos sens externes. C'est nos sens externes qui touchent la réalité. Vous ne touchez pas la réalité avec l'imaginaire. Vous touchez la réalité avec vos sens externes et votre intelligence qui dit ceci est. Et tandis que les sens touchent le réel en mouvement. C'est le mouvement, c'est le devenir. Les deux sources. Et l'imaginaire est entre deux. Mais c'est évident que l'imaginaire me paraît, comme beaucoup plus réaliste. Alors, il n'est pas réaliste. Et à partir de la réalité, cause première, principale, bon, dans les rêves, par exemple, il y a souvent des personnes réelles. Non, dans les rêves, il n'y a pas de personnes réelles. Il y a des personnes imaginaires. Ne confondez pas les rêves et la réalité. On a un petit moment quand vous vous réveillez d'un cauchemar, si vous avez des cauchemars. Hein, vous vous réveillez d'un cauchemar. Oh, il faut quelques minutes pour se dire oh, je suis dans mon lit. L'univers autour du lit n'est pas l'univers réel. C'est arrivé un univers imaginaire. On a beaucoup de peine de rejoindre le réel. Et on est prisonnier de l'imaginaire. Et l'opinion des hommes, ceux qui lisent le journal, croyant trouver le réel, mais non, ils sont dans l'imaginaire du journaliste. Et l'imaginaire du journaliste, il gagne l'imaginaire du voisin. Et le voisin gagne l'imaginaire de l'autre. C'est infini. C'est très curieux, ça, l'imaginaire, ça. C'est un faux infini, parce que c'est l'infini successif. Mais l'imaginaire ne touche pas le sable de la mer. C'est mon quai. À partir de mon pied, ah, l'imaginaire marche. Mais à partir de mes mains, l'imaginaire marche. Mais alors, dans les rêves, par exemple, il y a souvent des personnes réelles. Mais elles sont imaginées. Mais dans un contact complètement étrange, oui. Vous saisissez le réel dans ce contact, à travers ça. De même, dans l'écriture, quand l'écriture dit que les péchés sortent du cœur de l'homme, en disant qu'il y a qui puisse entrer dans l'homme. Il me semble, il y a quand même d'abord un monde qui m'influence, image, fausse opinion, qui me pénètre et m'influe. Oui, vous voyez, ce monde, c'est le monde imaginaire. Moi, je suis très frappé de ça. C'est que même les gens qui font tous les jours le même voyage pour le travail, le même parcours, ne voient plus ce qu'ils voient dans le parcours. On ne fait pas attention. On imagine, on vit dans son monde imaginaire, dans les images. Même on a vu ça, ça va arriver. L'imaginaire, la connaissance de l'imaginaire, c'est toujours par un autre. L'intelligence, l'affectivité ou les sens. Et à partir de là, ça marche. Vous avez un imaginaire affectif, ça c'est sûr. Vous avez un imaginaire pratique. Vous avez un imaginaire artistique. Vous avez un imaginaire... Non, pas de saint. Le saint ne vit pas d'imaginaire. Il vit de la réalité. Dieu existe. Saint François existe. Mais vous voyez, quand vous faites un examen de conscience, vous voyez bien quand même ce qu'il y a dans votre vie d'imaginaire et ce qu'il n'y a pas d'imaginaire. Faites la distinction, c'est très important, pour que vous viviez dans le réel. Et vivre dans le réel, c'est vivre pour nous en face de Dieu. Je n'atteins pas Dieu par l'imaginaire. Mon imaginaire est un écran entre moi et Dieu. Ça, c'est très très important. Alors, il y a une question très importante, si on a le temps, de voir que l'imaginaire de l'homme et l'imaginaire de la femme sont différents. Alors, ça... C'est ça qui serait intéressant. Les sens externes sont les mêmes. Peut-être que le toucher féminin est plus carnes mollas, comme dit Aristote. Le toucher féminin touche plus, a plus de finesse. L'homme, il se contente d'un toucher rapide. La différence entre une femme vous serre la main et un homme vous serre la main. C'est différent. Donc il y a le point de vue de la sensibilité, c'est vrai. Même la sensibilité est différente. La sensibilité de tout toucher. C'est la différence, mais parce que le point de vue... sensible, comme tel, le vrai sensible est plus développé chez la femme que chez l'homme. L'homme raisonne plus. Mais quand la femme se met à raisonner, c'est effrayant. C'est prodigieusement agaçant pour l'homme. C'est curieux. Quand la femme ne raisonne pas, c'est agréable pour l'homme. C'est curieux, mais c'est ces choses-là qu'il faut... qui nous montre ce que c'est, qu'au point de vue philosophique, profondément. Il y a là quelque chose qui est très important et intéressant. Et donc, le toucher, il y a des questions de plus ou moins sensibles, parce que nous vivons beaucoup du toucher. C'est le sens, toucher des pieds, toucher des mains surtout. Mais chez certains, toucher des pieds est très important. C'est pour ça qu'ils aiment te donner des coups de pied. Et ça, c'est les petits garçons. Les petits garçons donnent des coups de pied et les petites filles, pas. Elles les reçoivent. Et il y a des points de départ, là. Les différences de deux. Vous voyez, parce qu'à partir de là, à partir du toucher, l'imaginaire augmente. Alors vous avez un imaginaire bien poussé par les coups de pied. Un imaginaire différent, tout de suite. C'est très curieux, comme ça, pousse immédiatement une différence. Quand vous interrogez des gosses, c'est très important de voir ça. Si on veut comprendre un peu la différence, mais alors, au point de vue imaginaire, il y a ce qu'on fait de l'imaginaire, et l'imaginaire féminin et l'imaginaire masculin n'est pas tout à fait le même. Là, c'est très vrai, ça. Et ça fait du reste souvent des choses difficiles dans l'amitié, dans l'entente. Surtout pour les choses ordinaires, hein. Les choses habituelles. Parce que les choses importantes, l'imaginaire se corrige tout de suite par l'intelligence. Mais tandis que les choses de l'usage commun, l'imaginaire joue un rôle très grand. Mon père, qu'est-ce qui différencie la personne qui réalise une œuvre d'art de la personne qui goûte l'œuvre d'art? C'est très juste, ça. Il y a le côté actif et le côté réceptif. Et ça, c'est vrai que ça fait une très grosse différence de personne. Il y a des personnes qui écoutent l'autre et des personnes qui n'écoutent jamais. Alors, la différence de celui qui écoute, c'est celui qui aime de voir une exposition. Et puis celui qui l'a fait. C'est pas le même du tout. Et la différence va être très profonde. Celui qui écoute, il est réceptif. Il est désireux de comprendre l'autre. Celui qui fait quelque chose, il a toujours un peu le désir qu'on s'intéresse à lui. Il est premier. Le premier et le second. Si l'art est une dimension de la personne humaine, le fait d'en rester au goûter, entre parenthèses, de recevoir, ne peut-il pas être une imperfection? Non, il n'est pas une imperfection, il est autre chose. C'était très important. Être réceptif vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas une imperfection. C'est une attitude autre que l'attitude de celui qui fait. Alors vous discutez. Il est évident que celui qui fait est plus en acte que celui qui... Donc, celui qui reçoit est plus réceptif. Et parce qu'il est plus réceptif, il est moins en acte. Par le fait même, il changera plus. Et c'est vrai, un artiste trouve toujours ce qu'il fait plus parfait que ce que les autres font. Celui qui regarde, il pourra mieux juger. Parce que vous êtes parti, vous faites partie de la chose que vous avez faite. Donc, vous n'êtes pas entièrement libre. Vous l'avez fait. Vous êtes lié à votre œuvre. Toujours plus ou moins. Même quand vous dites, quand je l'ai fait, je m'en occupe plus du tout. Quand les artistes disent ça. Et puis, quand ils retrouvent leur œuvre, ah, c'est moi qui l'ai fait, ça. Ça revient tout de suite. Parce qu'on reste lié. Alors, oui, c'est le plus parfait actif. Les deux se complètent. N'est-ce pas un certain romantisme analogue au fait de rester à un amour affectif sans passer à un amour effectif? On est dit. Pas nécessairement. Parce qu'autrement, vous mettriez l'effectif qui finalise l'amour. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, tout ce que vous ne faites pas et que vous simplement vous aimez, c'est pas suffisant, voilà. on regarde les effets, on juge d'après les effets et non pas d'après la qualité de l'intention, qui est l'amour. La qualité de l'intention, en premier lieu, c'est l'amour. Et c'est ça qui est le plus précieux. Donc, il faut être très attentif. Hein. On change de niveau entre l'amour et l'effet. On passe de la cause à l'effet. Donc, c'est plus le même niveau. Vous ne pouvez pas dire s'il n'y a pas, voyez, sans passer à un amour effectif. Alors, vous mettez en éthique. Alors, en éthique, d'accord, mais attention, en éthique, vous dites, il faut que cet amour ait des résultats. Et quand quelqu'un vous dit, je suis en train de me convertir, il y a un progrès énorme. Et l'autre qui vous dit, regardons les effets, on ne le voit pas beaucoup. Et avant de voir les effets, il faut que l'amour se fortifie, soit plus, alors il pourra ensuite donner les effets. Alors en éthique, ça dépend à quel niveau vous regardez l'éthique. Si vous regardez l'éthique finalisée par l'amitié, vous voyez bien que ce ne sont pas les effets. L'ami ne juge pas son ami à partir des effets. L'ami juge l'amour, son ami à partir de son amitié. Pourriez-vous faire un excursus en philosophie demain en parlant de la distinction forme et fin en art et en éthique? Comment est-ce que la prudence n'est pas une voie déterminée? Comment implique-t-elle la souplesse dans les moyens par rapport à l'art? Oui, ordinairement, c'est ce qu'on dit. Hein. L'art a des voies déterminées. Et que la prudence n'a pas de voie déterminée. Celui qui a des voies déterminées en prudence, ça devient très dangereux. Parce que, alors on dira, il est déterminé avant et puis fonce. Et, alors ça, c'est foncé. Là, la prudence attend le bon moment. Et puis, on avance, parce qu'on cherche la fin. L'art cherche l'effet. Finis effectus. Vous voyez, il y a le changement en scolastique. On dit toujours « finis effectus », c'est-à-dire « la fin est faite ». La fin est faite, c'est la statue que je suis en train de faire. C'est le meuble que je suis en train de sculpter. « Finis effectus ». L'art se termine à l'effet. Mais ce n'est pas l'effet qui finalise l'art. Il faut que l'effet soit beau. Hein? Et la beauté, quelque chose qui vient s'ajouter à l'effet. Quand dites-vous qu'un effet est beau? C'est toute la beauté. Et c'est vrai, la fin de l'art, ce n'est pas la fin. Enfin, la fin d'un cuisinier, l'art culinaire. C'est que le repas soit chaud, cuit, prêt, à l'heure. Mais est-ce que c'est ça seulement? Mais qu'il soit bon. Le cuisinier qui dit « ça m'est bien égal », il est prêt. C'est pas un vrai cuisinier, c'est pas un artiste. Alors, la cuisine... Le cuisinier ars coadjuvans naturam. l'art qui aide la nature. La nature unique sans l'art, elle vous cuit les petits pois, les pommes de terre, les haricots, tout de la même façon, avec de l'eau chaude. Alors c'est fait. C'est très bien, on les supporte un jour, on les supporte deux jours, le troisième jour, vous pourriez quand même un peu changer. Oui, la nature adonum, même pour le cuisinier, la nature adonum, quand l'art n'est pas là. Alors l'art n'est jamais adonum. C'est que quand le cuisinier est fatigué, adonum. Et chaque jour c'est différent. En plus, c'est pas la peine de faire toujours le suivant. Ah, mais quand même, un artiste c'est toujours différent. Dans un temps, il fera la série pour que ça aille plus vite. Alors, quand le cuisinier est fatigué, il retourne dans la série. Mais bon, alors. La distinction entre la forme et la fin. On a la forme de l'artiste, c'est que l'idée que l'artiste a se retrouve dans son art. Donc, ce qu'il fait est correct, parce qu'il est semblable à l'idée. Ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, ce soit beau. Agir correctement n'est pas toujours agir en beauté. Alors, la fin de l'art, c'est l'effet, réaliser l'effet, mais la fin de l'art véritable, c'est ce quelque chose de plus. Cette œuvre est belle, elle arrête l'attention. C'est donc quelque chose de plus. Réaliser une œuvre belle, c'est pas seulement réaliser une œuvre. Réaliser une œuvre belle, c'est quelque chose qui attirera mon attention. Donc, il faut bien distinguer dans l'art. Du reste, on dira, il y aura un art qui sera très formel. Et l'art très formel, c'est quand la forme s'impose et qu'il n'y a que la forme. Alors tout est propre, c'est parfaitement propre, c'est net et c'est pas beau. La beauté vient mettre une finalité. Mais cette finalité est autre chose que la finalité morale, la finalité de l'homme. Donc il faut distinguer, vous voyez, l'effet formel, l'effet qui est beau, et la beauté artistique qui est distincte de la beauté morale. Ça, c'est bien évident. Il y a des choses qui peuvent être belles artistiquement et qui ne sont pas morales. C'est la beauté de Satan. Satan peut être quelquefois séduisant dans la beauté. Et ce n'est pas la fin morale. Alors ici, hier, vous parliez sur la gloire, cette recherche de gloire, que ce soit dans le sport, la politique, le spectacle, le théâtre, le cinéma, etc., ou dans d'autres domaines, au fond, n'est-elle pas un désir d'être aimée? D'un désir d'attirer l'attention, plus que d'être aimé, je crois. C'est d'abord ça. Par la gloire, je suscite l'admiration. Alors ça, c'est vrai, l'admiration, parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est quelque chose... Alors, vous voyez, très vite, on glisse à l'originalité. On cherche l'originalité pour l'originalité. Quelquefois, ça se voit dans l'art. Hein. On voit des tableaux qui sont faits avec la queue d'une vache. Ça se voit. L'originalité. L'originalité n'est pas artistique, hein. Non. L'originalité peut être bête. Il y a une originalité sublime et une originalité bête. Un besoin affectif inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme a été créé pour être aimé, pour aimer. C'est sûr. Mais la gloire n'est pas uniquement ça. Je ne peux pas ramener la gloire sauf en Dieu. La gloire de Dieu est liée à son amour. Mais c'est parce que c'est Dieu. La gloire humaine n'est pas liée uniquement. La gloire va susciter une admiration. Et l'admiration peut, alors, à ce moment-là, attirer quelqu'un. Mais je crois que il y a la gloire, le panache, qui ne fait pas nécessairement attirer l'amour. Si nous considérons cela comme vrai, quel est le rapport entre la sexualité et l'affectivité? Car j'ai l'impression que ces deux domaines sont très souvent confondus. Et dans une société comme la nôtre, où il y a une énorme permissivité dans le domaine sexuel, il y a un refoulement puritain de l'affection, de l'amitié. Comment équilibrer ces deux aspects de la personne humaine, affectivité et sexualité? D'ailleurs, cette permissivité sexuelle ou désordre sexuel n'est-il pas le revers d'une très grande pauvreté affective et sentimentale? Oui, je crois qu'il y a quelque chose de vrai, n'est-ce pas? La véritable affectivité n'est pas sexuelle. Ben, alors là, évidemment, vous voyez, c'est ces confusions qui ont été très nettes avec Freud, et qui pourtant était très nettement faite dans une philosophie bien plus sérieuse, celle d'Aristote, celle de saint Thomas. Il faut distinguer affectivité et sexualité. Freud confond les deux, et ça c'est terrible. Et on tombe dans le panneau, hein. Embrasser un petit enfant, il n'y a rien de sexuel. C'est l'affectivité. La mère qui embrasse son enfant et tout le monde, quand vous arrêtez auprès d'un petit et que vous l'embrassez, il n'y a rien de sexuel. Alors, il y a des gens qui sont complètement détraqués. Ça, c'est toute chose. Là, alors ils sont malades. Pour eux, tout est sexuel. Pour Freud, c'est comme ça. Freud ne distingue pas l'affectivité de la sexualité. Et ça, c'est grave, vous voyez, parce que ça a tout détraqué. L'affectivité naît avant la sexualité. L'affectivité naît d'un amour vis-à-vis du bien. La sexualité est caractérisée par tel bien et pas le bien. Donc il y a une différence entre les deux. On doit absolument distinguer les deux. Confondre les deux, c'est du freudisme. Alors, Freud, d'abord, est dépassé, on le sait bien, mais on retombe très vite dans cette confusion. Alors, cette confusion est très grave, parce que je crois que tout le monde a besoin d'une affectivité. Elle est humaine et elle est bonne. Quelqu'un qui refuse toute affectivité, qui devient comme un balai rigide, absolument rigide, c'est effrayant. Oui. Au fond, Descartes, il y a un peu de ça. Hein, parce que Descartes ne comprend pas l'amour spirituel. Tout amour, pour Descartes, est sensible et passionnel. Tandis que je crois qu'il faut arriver à distinguer la première affectivité sexuelle. C'est vrai que le point de vue sexuel est lié à l'affectivité, c'est sûr. Mais c'est une affectivité typique, c'est-à-dire très particulière. Il y a l'affectivité passionnelle qui n'est pas toujours sexuelle. Heureusement. Et puis, mais dans notre monde, l'affectivité passionnelle est presque toujours sexuelle. Dans notre monde. C'est la dégradation de notre monde, ça. Parce que c'est une dégradation terrible, celle-là. Et puis, il y a l'affectivité spirituelle. Il y a 3 degrés d'affectivité. Mais comme l'affectivité n'a pas la lucidité des différents niveaux de l'intelligibilité, on confond très vite affectivité, toujours tout de suite. Dans notre monde, sous l'influence de Freud, l'affectivité est regardée comme sexuelle, alors que c'est une grave erreur. Il y a une affectivité spirituelle, il y a une affectivité passionnelle. Alors, qu'elle glisse facilement au sexuel, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit identique au sexuel. Quand vous trouvez le chocolat bon, c'est passionnel ça. Vous goûtez du chocolat, c'est bon. Vous goûtez un fruit, une fraise, pas artificielle, mais de vraie fraise, qui a poussé dans les jardins de bon curé. Alors vous la trouvez délicieuse. Et vous avez un palais qui trouve les choses délicieuses. C'est pas sexuel. C'est tout simplement de l'affectivité. Et l'affectivité passionnelle est beaucoup plus développée chez la femme que chez l'homme. Alors, le point de vue sexuel est plus développé chez l'homme que chez la femme. Et c'est pour ça que les philosophes comme Freud ont confondre les deux. il y a une passion affective. Et la passion affective n'est pas sexuelle. Je suis passionné. Je suis passionné pour une liqueur. Quand vous prenez une liqueur, la bonne chartreuse, hein, parce que là, c'est l'avantage des chartreuses, c'est qu'ils ont une liqueur. Quand vous prenez une bonne chartreuse, avant de connaître un chartreux, ça fait partie de la propagande. Alors, quand vous prenez une bonne chartreuse, mais c'est bon. Si vous avez le palais bien fait, c'est bon. Et vous pouvez goûter. Pas trop. Parce que je viendrai un gourmet. On passe plutôt vite à la passion affective, goûter quelque chose, sentir quelque chose. Bon. C'est passionnel. Le point de vue passionnel n'est pas toujours sexuel. Il y a un passionnel sexuel qui est original. Qui a son caractère propre. Le passionnel, il ne vaut mieux pas trop s'y arrêter, on le sait. Mais quand on le distingue, le passionnel, très bien. Et puis, il y a l'intelligible, spirituel, l'amour spirituel. Et puis il y a l'amour divin. Vous voyez, il y a quatre. Et tout ça, c'est l'affectivité. Et l'affectivité en elle-même est distincte. La sexualité est une certaine affectivité. C'est une certaine affectivité. Il ne faut pas tomber autrement. Tomber dans le scrupule, toute affectivité, oh, c'est sexuel, donc c'est défendu. Mais non. Heureusement qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles passionnément. Vous trouvez ça chez certains. Et c'est pas mauvais. Ils sont bâtis comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'affectivité sensible, ça se voit. Ils ont été éduqués à la manière de Descartes, à la manière de Kant. Alors, c'est rigide. C'est rigide. On passe tout de suite à la loi. Et ça devient terriblement rigide. Alors, il n'y a plus ce velouté passionnel qui est autre chose et qui est humain. L'homme est un être humain, un être passionné. Quand vous voyez aucune passion dans un homme, vous avez envie. Vous savez, c'était le système des enfants de cœur du temps. Il y avait toujours celui qui portait la joie. Alors, qui mettait des bas, on voyait ses mollets énormes. Et les enfants de cœur qui voulaient voir si c'était vrai, alors qu'ils voulaient le piquer. Pour voir la réaction, si c'était vrai ou faux. S'ils avaient des gaines. De temps en temps, on voit ça. On a envie de piquer, pour voir si vraiment il réagit encore. Ah, il ne réagit plus du tout. Il y a des gens qui sont tellement sage, mais sage, pas du tout de la sagesse, mais tellement rigide qu'on a beau les piquer, aucune réaction. Ça, c'est pas humain. Et Aristote dit que la rigidité, c'est-à-dire la négation de toute passion, c'est le plus grand des vices.